This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téterait pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons, et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Alors, on reprend là où on en était resté la dernière fois. Et en gros, on avait fait voilà, les deux premiers mois quoi, de l'allaitement. Ensuite, ce que je ne vous ai pas dit sur cette première partie, et qui a été un gros bonus, que ce soit pour l'allaitement ou que ce soit pour le postpartum de manière plus générale, c'est que vraiment, j'ai eu un postpartum tellement préservé, bah, même plus préservé que la première fois, malgré le fait qu'il y ait déjà un enfant avant, pour différentes raisons. La première, c'est que le papa a été beaucoup, beaucoup plus présent. Alors, il n'a pas pris de congé paternité en tant que tel. Mon conjoint est à son compte et après une année difficile dans le bâtiment, comme pour beaucoup de monde d'ailleurs l'année dernière de manière générale, il a une super mission qui a commencé tout fin août et qui n'était pas reportable en fait, où on pouvait pas, il pouvait pas s'arrêter un mois et prendre un congé paternité comme il aurait aimé certainement le prendre. Donc il s'est arrêté quelques jours et il est beaucoup plus présent dans cette période-là que dans une autre. Mais il n'a pas pris de congé paternité en tant que tel. Bouh, pas bien, mais c'est comme ça. Et là, c'était vraiment pas possible, il fallait prendre cette mission, c'était vraiment obligatoire. Mais cette mission, même si sur le papier, là, comme ça, elle a l'air casse-pied, et ben en fait, elle l'est pas du tout. Parce que là où d'habitude, il a des horaires qui sont costauds, où il part très tôt le matin, pour ne pas être dans les bouchons, pour être à l'autre bout de la région parisienne, sur des chantiers, pour faire des réunions de chantier du matin, etc. Eh bien, cette fois-ci, cette mission se déroule sur des horaires de bureau. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans l'épisode, ou alors il sortira après, j'en sais rien, sur allaiter avec un aîné. Il est sur des horaires de bureau, ce qui fait que le matin, en fait, il est là. Il travaille de 9h à 18h, 4 jours par semaine dans Paris, quoi. Plus le dernier jour pour sa boîte. Et travailler sur des horaires comme ça, sachant qu'on a déjà le premier et que l'enjeu pour moi du deuxième postpartum, c'est de gérer le premier enfant en plus, parce qu'on se demande comment on était débordé avec un seul au moment du deuxième. Et s'il est à 9h dans Paris, et pas très loin dans Paris, et ben en fait, tous les matins, c'est lui qui a levé le grand de 5 ans, qui va à l'école en grande section, qui lui a fait prendre son petit déjeuner, machin, les dents, enfin bref, tout le rituel du matin, et qui l'a emmené à l'école, déposé à l'école avant de partir au travail. Et ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que tous les matins, quasi sans exception. Je compte sur les doigts d'une main entre septembre et maintenant. On est 1er mars là quand je vous enregistre ça. Je vous compte sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai emmené le grand à l'école le matin et que j'ai eu les deux à gérer. Et ça, gros game changer, parce que sans ça, évidemment que ça aurait été moins drôle, parce que le matin, c'est quoi avec les bébés? C'est l'heure en fait où ils se rendorment. C'est l'heure où ils se rendorment et que vous pouvez vous finir un peu, enfin eux ils finissent leur nuit, vous vous rattrapez des heures que vous n'avez pas, pendant lesquelles vous avez fait les tétés, les couches, les pipis, le truc qui déborde sur le pyjama, etc. Donc honnêtement, sur toute cette période-là, c'était un peu « toi tu gères le grand et moi je gère la petite, je l'allaite, donc de toute façon, ne viens pas te lever pour changer des couches ou je sais pas quoi, moi je gère, je me rendors très vite après. » Et encore une fois, j'avais un bébé qui allait plutôt bien, donc c'était cool. Mais donc ça fait que tous les matins, grossièrement, je pouvais me rendormir avec elle et je pense que il y a eu beaucoup de matins où ils ne nous ont même pas vu nous lever et qu'à 8h30, on était encore au lit avec la petite. Nuit pourrie ou pas, en tout cas à cette heure-là, elle dormait encore. Et donc ça, c'était génial. Vous cumulez à ça le fait qu'on a toujours gardé dans les parages avec nous la nounou du grand, de quand il était petit, et qu'elle lui a toujours fait les sorties d'école depuis en garde partagée. Et que là, depuis quelques mois, elle n'a plus que nous comme famille pour l'instant. Et donc en fait, j'avais donc le papa le matin, la nounou qui allait me chercher le grand à l'école à 16h30, et qui voilà, se balade avec lui, ils vont au parc, ils retrouvent les potes, les autres nounous et tout. Et donc du coup, il rentrait à la maison à 18h, il rentrait à la maison à 18h, voilà, et son heure de départ à la nounou, c'est 18h30, et de 18h à 18h30, elle me le lavait. Alors là, franchement, je vais vous dire honnêtement, mais que rêver de mieux, puisqu'après 18h30, mon mec est fini à 18h dans Paris, à 18h45, il était à la maison. Donc en tout et pour tout, sur la journée, j'avais un quart d'heure où j'avais les deux. Et franchement, quel kiff, parce que j'ai pu avoir un postpartum tout doux grâce à ça. Vraiment tout doux, avec un bébé qui va plutôt bien, moi qui vais bien, qui ne suis pas abîmée physiquement. Donc franchement, et puis rappelez-vous, hein, mon moral va beaucoup mieux aussi. Mon moral, les décharges de cytosine toute la journée, et ma foi, moi je suis au top de ma vie à ce moment-là. Ça fait des années que j'ai pas été aussi peu fatiguée que là, alors que pourtant, je passe pas des bonnes nuits. Hein. Je me réveille plusieurs fois, comme toutes les mamans allaitantes. Il y a des nuits où c'est plus compliqué, il y a des nuits où vous restez 1h30 debout, parce que je vous dis, le temps d'allaiter, de changer une couche, vous mettez la couche sous les fesses, elle fait pipi, le pipi déborde sur le pyjama, faut changer tout le pyjama, vous lui redonnez à téter, parce qu'entre-temps il s'est passé une demi-heure, vous dites, bon, est-ce qu'elle a eu assez? Vous lui redonnez, elle refait caca. Enfin bref, franchement, il y a des moments où vous vous dites, mais est-ce qu'à un moment je vais me recoucher cette nuit? Mais oui, on se recouche toujours à un moment. Et ça ne dure pas éternellement qu'il soit en mode canard à faire un repas qui entre, un qui sort et des cacas tout le temps. Donc, je me reposais aussi un peu avec elle la journée, j'avais du monde qui passait me voir, j'ai eu vraiment pas mal de visites et à la fois, les gens ont vachement respecté le jeu du postpartum. J'ai quasiment personne qui est venu sans venir avec leur repas ou le bout de nourriture correspondant au moment de la journée auquel ils venaient. J'ai des anciennes collègues qui sont venues avec leur tablier, coucou Virginie si tu passes par là, leur tablier, leur tub de nourriture qu'elles avaient déjà préparé, qu'elles ont posé sur ma table, réchauffé, etc. Enfin, je me souviens du repas de Virginie qui était l'hypnothérapeute qui travaillait au centre, qui aujourd'hui n'y est plus, mais qui a ramené un repas complet avec deux desserts, etc. Enfin, il y avait de quoi manger pour un régiment. Il y a les doulas quand elles sont venues, Anne qui m'avait ramené à manger. Tout le monde a joué le jeu, ramené un petit truc, me déchargeait, etc. Et franchement, c'était trop bien. Donc les visites, c'était juste un moment de kiff, c'était pas le truc à faire en plus. À la limite, ce qui était le plus fatigant, c'était presque le week-end, plus que la semaine. Donc ça, voilà, c'était les deux premiers mois. Et puis ça a duré un peu. Après les visites, elles s'estompent un peu. Et puis sur un deuxième, on vient quand même pas autant vous visiter que sur un premier, hein, clairement. Et arrivé vers les deux mois, alors entre-temps, elle avait eu sa petite section de frein, etc. Contrairement à mon fils, on avait commencé les biberons assez tôt, pour elle, on a commencé les biberons que vers deux mois. Je lui ai vraiment laissé un peu plus de temps. D'abord parce que j'étais là tout le temps, donc j'en ressentais pas le besoin. Et puis, avec l'intuition qui est quand même un peu moins bonne que celle de mon fils, de manière générale. Et je m'étais dit, bon, je laisse passer un petit peu de temps, et puis je vois. C'était pas évident tout de suite au début, mais elle s'en sortait. En gros, ce qu'il faut avec elle à ce moment-là, vers deux mois, c'est que le lait soit bien chaud, parce que sinon elle refuse catégoriquement de le boire. Aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Et puis, il faut que je sois un peu dans les parages. Le biberon, il a pas été facile parce que j'étais pas là. Donc voilà, ça c'était un peu étrange au début. En parallèle de ça, dans cette période, au niveau digestif, elle reflue quand même pas mal. Un peu comme mon grand à l'époque, mais niveau douleur, elle a pas l'air d'être trop gênée, donc on a continué comme ça. Elle nous fait, par contre, au niveau digestif, enfin, au niveau de j'en sais rien d'ailleurs, des 5 à 7 le matin, de 5h à 7h du mat. Mais ça a duré, je pense, vraiment 2 mois cette histoire. Mais on ne dormait plus après 5h du matin, quoi. Donc, le bruit, ça vous donne une sorte de mobilette qui démarre à côté de vous, enfin, en fait, qui démarre pas, qui se noie en permanence. Elle pousse. Comme ça, toute la nuit, tout le 5 à 7. Le 5 à 7, c'est un peu le moment où... Bon, voilà, il y a eu 2 réveils éventuellement avant, voire plus. Je vous dis, les couches à changer et tout, vous êtes claqués. Et elle, à 5 heures, au moment où vous vous remettez au lit, elle commence à faire la mobilette qui démarre. Oh là là, j'ai un vécu de ce truc-là, mais je n'en pouvais plus. Je comprenais pas. Et en fait, je pense qu'elle poussait. Elle poussait vraiment au niveau digestif à cette heure-là, ce qui n'était pas le cas le reste du temps. Bon. Tout ça avance, voyez, j'ai mis un 22 novembre, enfin, cet allaitement est quand même un long fleuve tranquille. À cette période-là, elle se réveille presque moins qu'aujourd'hui, elle me fait un réveil par nuit. La journée, en gros, l'espace qu'elle s'est été de 2-3 heures, pas plus la journée, mais en même temps, comme elle se réveille pas beaucoup la nuit, je lui fais une petite tétée de plus avant le dodo le soir. Moi, ma lactation, elle s'est super bien régulée, beaucoup plus facilement que la première fois. Et ça m'a même fait bizarre de temps en temps, parce que j'avais l'impression de manquer de lait en fin de journée. Vous savez, les seins un peu mous, etc. Moi, j'avais jamais connu les tétés groupés du soir et ce genre de trucs avec mon premier, puisque mes seins étaient tendus en permanence. Et je lui envoyais des flux de lait monstrueux. Elle, on est tombé sur un allaitement vachement plus classique. La nuit, je peux l'allaiter allongée. C'est fini de me lever, d'avoir le recueil lait d'un côté, les langes, les trucs, les bidules. En fait, tout ça fait que je me repose quand même pas trop mal, parce que à cette période-là, en dehors du 5 à 7, les nuits, elles sont pas si horribles que ça. Donc, cette fatigue-là, comparée à celle de la grossesse, mais vraiment, 1000 fois, je prenais celle-là, parce que voilà, c'est bien plus mon truc que d'être enceinte et de faire la baleine sur mon canapé à avoir envie de vomir. Et franchement, du coup, cette période-là, je la vis vraiment très bien. Et à la même période, je reçois mon tire-lait Elvie, dont je vous ai fait un retour sur l'épisode sur les tire-laits portatifs dans le 101. Et vraiment, quand je le reçois, je me dis, ce truc, c'est le feu, quoi. Tirer en faisant autre chose, c'est génial. Et puis, je vous ai dit, après, mon propos, il s'est un peu modéré, parce que je trouve que c'est quand même pas la même efficacité. Est-ce que c'est lié au fait qu'on le fasse autre chose, justement, entre-temps? Enfin, bon, bref, voilà. Si vous voulez plus d'infos, écoutez l'épisode 101, je vous ai fait mon retour. En tout cas, du coup, j'ai rendu, moi, l'autre tire-lait à cette période-là, parce que je me suis dit que je m'en servirais plus.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Et puis j'y ai été tellement raccordée la première fois à semer des la symphonie pour drainer mes seins que franchement, là c'est vraiment du bonheur de passer ces journées un peu plus au sec. Puis en dehors de ça, de l'allaitement en lui-même, Roma elle grandit bien, elle a quelques soucis digestifs, mais comme elle n'était pas vraiment étanche côté succion, je me doute que c'est ça, et puis je l'aide à faire séro, et puis voilà, on avance tranquillement sur ces sujets-là. Il n'y a rien de dramatique, il y a évidemment des moments plus compliqué que d'autres, comme tout postpartum, comme tout bébé qui a des jours off, enfin des jours on et des jours off. Mais bon, moi, dans cette période, je me sens quand même tellement mieux que ce que je me sentais enceinte. Quand une dépression, ça s'arrête du jour au lendemain, ça vous fait un gap vraiment, vraiment important. Et malgré le fait que l'automne n'ait pas été facile, que j'ai eu l'annonce du décès de quelqu'un que j'aimais beaucoup, etc., on a un peu traîné dans les enterrements d'ailleurs avec elle toute petite, c'était pas forcément très drôle. Mais malgré tout, c'est une période pour moi où le vécu, il est complètement positif, j'arrive à bien connecter avec elle. Et je sais que c'est pas le cas facilement et que moi, je suis un peu inversée sur ce dossier-là. C'est-à-dire que normalement, la grossesse, c'est quand même plus souvent le moment qu'on apprécie. Et le postpartum, le truc où c'est la galère, moi, je suis inversée là-dessus. Et puis quand je reçois vos témoignages quand même par message qui m'avaient écouté pour la grossesse et pour l'accouchement, je me dis que, en effet, je le savais, mais je suis loin d'être la seule. La grossesse, c'est quand même pas un moment de grâce pour tant que ça d'entre nous. Et heureusement que pour moi, le postpartum, c'est cool parce que franchement, si je me tapais une dépression du postpartum en plus, je sais pas si je sortirais la tête de l'eau à un moment ou à un autre. Donc voilà, on en est là, on est fin novembre, Roma va très bien, etc. Et je sais plus ce que je fais ce jour-là, mais en tout cas, le 25 novembre, je m'étais notée première sortie seule avec les copines. Je sais plus ce que j'ai fait exactement, vous voyez. Par contre, mon cerveau, ça, c'est un truc qui revient pas tout à fait en entier. En tout cas, première sortie seule avec les copines, je suis sans bébé. Je l'ai laissé à papa avec des biberons, mais en fait, je l'ai nourri avant de partir et en fait, il n'en a pas vraiment besoin. Et puis, je me disais, elle est un peu dure en affaires quand même quand je ne suis pas dans les parages. Donc, s'il y a un truc qui a été compliqué avec Roma dans les démarrages, c'était bien ça. C'était qu'elle avait pris l'habitude que je la nourrisse, que je l'endorme, pas nécessairement au sein, mais que ce soit moi qui l'endorme. Et on a eu toute une phase où elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre que moi l'endorme, voire même parfois la prenne dans les bras. Quoi. Elle était sympa si vraiment j'étais juste à côté. Et ça a été un petit facteur de stress au moment de ma reprise, parce que je me suis dit, mais comment on va s'en sortir? Avec la nounou, elle était mais rude, elle voulait pas aller dans ses bras, etc. Avec son père le soir, s'il essayait de lui faire son dodo, mais elle lui hurlait dessus dans des dimensions, c'était pas respectueux, quoi. Elle se mettait dans des colères monstrueuses, jusqu'à ce que je la récupère et que ça s'arrête en une minute. Bon voilà, ça a pas duré très très longtemps, mais... assez pour que ce soit un peu embêtant parfois. Voilà, beaucoup plus dur en affaires que mon premier, qui lui n'avait pas trop de problèmes, était très très sociable très tôt, à faire des smiles à tout le monde et à accepter de rester dans les bras. Moi, j'étais pas du genre à le laisser pendant des plombes dans les bras des autres. Mais voilà, ma deuxième est plus dure en affaires que mon premier sur ce dossier-là. Mais c'est assez vite passé. Et puis malgré tout, je pars quand même sereine à un dîner comme ça, parce que je me dis que quoi, au pire, il va la mettre en porte-bébé, elle va bien finir par s'apaiser. Et puis, en fait, je crois que ce soir-là, elle a fait dodo sur son torse. Et puis, ils sont allés se coucher. Et par contre, elle m'a fait une nuit à se réveiller tout le temps dès le moment où je suis rentrée, quoi. Cette coquinette. La sortie que vous payez, en fait. Voilà. Vous payez votre sortie parce que vous êtes sortie. Et en plus, vous ne dormez pas de la nuit. Donc, le lendemain, c'est un peu rude. Mais voilà. Fin novembre aussi, on fait les premiers biberons avec d'autres gens. Enfin, voilà, ça ne se passe pas toujours bien. Je sais qu'avec ma maman, c'était bon. Alors, c'était pas assez chaud, elle leur crache. Mais il faut que je ne sois pas loin, sinon elle lui hurle dessus. Voilà, c'est ces histoires de donner le biberon. Bon, ça me regarde. C'est vraiment, n'y voyez pas mon avis de professionnel. Voyez-y juste mon avis de maman. J'ai jamais vraiment compris l'histoire de maman doit pas être là pour les premiers biberons et ça doit être quelqu'un d'autre, maman qui s'absente, etc. C'est souvent ce qui est préconisé. Pour moi, changer l'outil avec lequel le bébé se nourrit et en même temps la personne, je trouve ça plus que perturbant. Plus perturbant en tout cas que de changer l'outil tout seul. Ça m'a fait ça avec les deux enfants. Je me suis toujours dit que j'allais faire un truc par jour, quoi. Et d'abord changer l'outil avec moi, que l'enfant s'habitue à l'outil, et après changer de personne, je sais pas. Moi, ça m'a toujours paru logique comme ça, donc j'ai jamais respecté ce truc. Et avec elle, vraiment, c'était un truc qui marchait pas, quoi. Je pouvais la mettre dans les bras de ma mère, elle était en train d'hurler, je la récupère, tac, boum, un biberon, elle le boit en me regardant, et elle est pas du tout en train de me chercher le sein. Ce sera mon conseil de la fin novembre, si ça marche pas avec quelqu'un d'autre, bah franchement... Gérez ça vous-même, alors ça fait un truc de plus qu'il faut gérer toute seule, mais en même temps, si ça prend 2 secondes, là où de l'autre côté, ça prend 3 semaines et que c'est dans les hurlements, j'ai envie de dire, voilà, moi je suis pas du genre à faire du forcing sur les trucs comme ça avec les enfants. Et chez nous, ce qui a toujours marché, c'est que ce soit moi qui le fasse d'abord, et qu'après, je délègue le truc une fois que le bébé s'est habitué au nouvel outil qu'est le biberon. On a décidé de donner des biberons parce que moi ça me paraît le plus simple, que Roman n'a pas une situation parfaite, mais que j'avais envie de lui faire confiance sur le fait qu'elle passerait très bien de l'un à l'autre, et parce que moi je ne me vois pas continuer l'allaitement en fait avec des contraintes trop importantes. Reprendre le travail, tirer mon lait, ça c'est oui. Par contre, de donner à la nounou un dalle, une tasse, un truc, un bidule, j'avoue que je ne me serais pas vue lui proposer ça. Je trouve que c'est quand même bien plus contraignant et que j'avais un bébé qui me semblait pouvoir faire autrement. Donc du coup, je me suis jamais trop posé la question. C'était pour moi le biberon qui allait être utilisé, bien donné, avec bébé bien assis, pour que ce soit elle qui bosse et pas le biberon qui lui coule tout seul dans la bouche. Mais j'ai jamais trop envisagé les autres outils, donc j'ai pas de retour d'expérience personnelle à vous faire là-dessus. Je sais qu'il y a plein de mamans qui le font. Et grand bien leur fasse, parce que si ça peut éviter de perturber leur allaitement, tant mieux. Mais chez moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et puis fin novembre, la nounou, je le sais, va partir mi-décembre pendant un mois dans le pays dont elle est originaire. Et donc, je décide que je vais proposer à la nounou de venir la garder un petit peu en journée pour que moi, je puisse me remettre gentiment la tête un peu dans le boulot parce que ça fait presque un an que je me suis arrêtée et que je commence à ressentir le besoin, même si j'ai vraiment du mal à me séparer d'elle. Ça n'a pas été facile les premières fois de la laisser. J'avais vraiment envie de rester scotchée à elle pendant longtemps, mais en même temps, mon cerveau commençait à me dire « Charlotte, là, tu commences à avoir besoin d'autre chose, donc prends des petits moments comme ça, ne serait-ce que juste pour brainstormer sur ce que tu as envie de faire à la rentrée. » Et en fait, ça me faisait du bien. Donc voilà, franchement, elle n'a pas été très très douce avec elle. Hein. Oh là là, voilà. Je vous raconterai ça, je pense, dans un autre épisode, mais c'était pas facile. Et puis en plus, j'étais quand même à la maison parce que je bosse dans une pièce de la maison. Et je pense qu'elle sentait que j'étais là et que jusqu'à ce que je parte vraiment travailler, finalement, c'était pas simple pour elle de me sentir dans le coin et en même temps que je sois pas en train de m'occuper d'elle et que ce soit quelqu'un d'autre. Donc voilà, on arrive là, on est début décembre. Et au global, bah, tout rouge, voilà, ce postpartum continue d'avancer. Moi, je profite d'elle. Je sais que voilà, cette histoire de grossesse et de postpartum immédiat là, avant la reprise du travail, en fait, touche doucement à sa fin. Il y a les vacances de décembre après qui vont arriver. Donc, je profite d'elle. Et puis, c'est tout. Et puis, on a quelques galères, je vous dis, à la mettre dans les bras de ci, de là, des gens. Mais c'est pas un gros sujet au quotidien. Donc, on continue d'avancer comme ça. Et puis, je vous raconte le mois de décembre une prochaine fois. Allez, salut. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, milkshaker autant que vous le voudrez. Et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I could take